Alors, donc, comme vous le savez, ce mois-ci, on est sur le thème de Dieu est esprit. Et donc, j'ai intitulé ce message ce soir, l'œuvre de l'esprit parmi les hommes dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancienne Alliance, l'esprit était souvent appelé l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu ou l'esprit du Seigneur. Et on remarque que ce n'est pas sa nature, en fait, qui est mise en avant dans l'Ancien Testament, mais son œuvre. Alors, on a vu que l'Esprit de Dieu était impliqué de façon active dans la création de notre monde. Alors, j'ai pris quelques passages qui nous le montrent. Dans Genèse 1-2, il nous est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, ce « mouvait » en hébreu, c'est le mot « rachaf », qui est également traduit dans d'autres versions par « planer, voltiger ». Et on retrouve ce même mot dans Deutéronome chapitre 32. Quand Moïse décrit la relation qui unit Dieu à son peuple. Voilà ce que dit Moïse au sujet de l'Éternel et de son peuple. Donc, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Voltige, donc c'est le mot rachaf, sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Donc on voit que l'Esprit de Dieu, en fait, participe à l'éveil, à la mise en vie, à la mise en vie du monde. Voilà. Le psalmiste, au psaume 33, nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Alors, la création de l'homme et de tous les êtres vivants est aussi associée au Saint-Esprit. On l'avait vu aussi, rapidement. Donc là, ce sont les paroles d'Élihu, l'ami de Job. Voilà comment il s'exprime. « Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. » Et un peu plus loin, il ajoute « Oui, s'il portait sur lui toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble. L'homme retournerait aussi à la poussière. » Également, à propos des animaux, voilà ce que nous dit le psaume 104-30. « Tu caches ta face, ils sont troublés. Tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Donc nous voyons que c'est par son esprit que Dieu donne la vie physique à tout être humain et à tout ce qui vit sur la terre. Si j'existe, je le dois à Dieu et à son esprit créateur, source de vie. Alors je vais encore parler de Naomi ce soir, elle va dire, ben, décidément, mais j'ai remarqué que dans ses prières, régulièrement, elle va dire à Dieu merci pour le souffle de vie. Et je trouve effectivement que c'est important de réaliser que chaque matin, si on se réveille, chaque matin, si on respire, on le doit à Dieu. Et donc, je crois que c'est important d'être reconnaissant à Dieu pour la vie. Alors, en plus de son œuvre dans la création, on va voir ensemble que l'Esprit a aussi agi avec des hommes. On découvre dans l'Ancien Testament que Dieu revêtait de son Esprit certaines personnes qu'il appelait à un service particulier. Moïse a fait partie de ces hommes que Dieu a couverts de son esprit pour le rendre capable de conduire son peuple. On va lire ensemble dans Nombre, au chapitre 11, versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Alors là, pour replacer un peu dans le contexte, Moïse, à ce moment-là, est complètement découragé. Il est fatigué moralement, il est fatigué de ce peuple. Tout simplement parce que c'est un peuple qui se plaint, c'est un peuple qui réclame, qui fait des reproches à Moïse, qui regrette sa vie d'avant en Égypte, alors qu'il était en esclavage. En fait, Moïse est tout simplement épuisé. On dirait aujourd'hui qu'il est en plein burn-out. Et je trouve intéressant de voir que cet homme, à ce moment-là, ne va pas s'isoler et se replier sur lui-même, mais qu'il va s'appuyer sur son Dieu et se réfugier en lui. Et là, il va déverser tout son cœur devant l'Éternel. Et je crois que Moïse a eu la bonne attitude en cherchant son secours en l'Éternel. Et moi, j'aime vraiment l'authenticité et la sincérité et aussi l'humilité de Moïse. Parce que je crois vraiment que Dieu peut tout entendre et il peut tout comprendre. Encore faut-il être vrai avec lui. Et là, eh bien, on voit que Dieu va user de compassion et de miséricorde envers Moïse. Il va lui donner la solution, la solution. Et je crois que quand humainement, on n'a pas de solution. C'est vrai que des fois, on se trouve dans des situations où on se dit qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Je crois qu'il est important de se rappeler que Dieu en a toujours. Lui, il a la solution. Il a toujours une issue pour nous. Alors, eh bien, Dieu, ce qu'il va faire à ce moment-là, eh bien, il va inspirer Moïse en l'engageant à répartir la charge qu'il a sur d'autres personnes. On parlerait aujourd'hui de déléguer. Hein? En fait, il l'engage à déléguer. Mais pas à n'importe qui et pas n'importe comment non plus. Vous avez remarqué, il lui demande de choisir des hommes fidèles, hein, parce que ce sont des anciens, hein, qui sont reconnus par le peuple, dont l'autorité est reconnue parmi le peuple. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu va les revêtir à leur tour de son esprit, du même esprit qui repose sur Moïse, parce qu'il n'y a qu'un seul même esprit. Et cet esprit, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et en fait, nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir son œuvre, quelle qu'elle soit. On va le voir ensemble. Dans l'Exode, au chapitre 31, on va le voir quand l'Esprit descend sur des hommes pour les qualifier, pour la construction du tabernacle, mais aussi pour confectionner les vêtements du sacrificateur. On va lire ensemble. Exode 31, chapitre 31, verset 1. Enfin, verset 1, et puis la suite. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Donc là, en fait, en les remplissant de son esprit, Dieu a communiqué à Betsalel et à ses compagnons la sagesse et l'intelligence pour accomplir l'œuvre qu'il leur avait confiée. Et il leur a donné aussi les capacités manuelles et artistiques aussi, parce qu'il fallait vraiment avoir des capacités artistiques aussi, hein, dont ils avaient besoin en fait pour mener à bien en fait cette mission. Et Moïse ajoute, ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant, il ajoute quelques versets plus loin, enfin même chapitre plus loin je crois, c'est ça, chapitre 35, Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc là, on voit que Dieu leur a donné en plus la capacité de transmettre leur savoir-faire à d'autres personnes. Dieu nous rappelle dans ce passage que c'est lui qui choisit les personnes pour tel ou tel service, et non les hommes. Et j'aimerais aussi rappeler que nous avons été tous choisis par Dieu pour être à son service. On va lire ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »
Amen.
Et comme nous le voyons ici, lorsque Dieu appelle des hommes à le servir, il les qualifie toujours. Il les qualifie en les remplissant de son esprit. Alors nous voyons ici qu'il a choisi un homme ordinaire et qu'il en a fait un architecte, je dirais, à la gloire de son nom. Et j'ai été touchée de découvrir qu'aujourd'hui, l'École nationale des beaux-arts en Israël, située à Jérusalem, porte le nom de Betsalel. Ça m'a touchée. Et Betsalel, ça signifie sous la protection de Dieu. Ça m'a vraiment touchée. Alors on va voir ensemble encore que Dieu a fait la même chose avec d'autres hommes qui, eux, sont devenus juges en Israël. C'est le cas d'Othniel. Voilà ce qui nous est dit dans Juges, au chapitre 3, versets 9 à 11. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre cet homme. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Effectivement, Othniel devint le premier juge en Israël. C'est le cas aussi de Gédéon. Vous connaissez Gédéon, hein, dont la famille est la plus pauvre en Manassé et qui est le plus jeune de sa famille. Eh bien, c'est lui que Dieu choisit et revêt de son esprit pour délivrer son peuple des Madianites. Voilà ce que dit Gédéon. Quand l'Éternel se présente à lui, voici. « Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et Gédéon est allé avec la force qu'il avait, tout simplement. Et il a vaincu avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Il en est de même pour Jephté. Juges chapitre 11. « Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephté. Celui-ci traversa les territoires de Galate et de Manassé, puis il passa à Mitzpah et Galate, et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. » Voici, c'est les Ammonites. Jephté se lança à l'attaque des Ammonites, et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroer et Minite, et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites, qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Puis il y a l'exemple, bien sûr, de Samson. Je pense que vous connaissez tous Samson, hein, qui a été choisi par l'Éternel avant même sa naissance, lui, pour délivrer son peuple de la main des Philistins, cette fois-ci. L'Esprit va descendre sur lui, l'Esprit de Dieu, avec une grande puissance. Voilà ce qui nous est dit dans Juges au chapitre 14. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un cheval. C'est fort. Juges 14, 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et est descendu à Ascalon et y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Juge 15, lorsqu'il arriva à Lechi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Ah, c'est la force surhumaine. Hein. Samson fut juge en Israël pendant 20 ans. Là encore, un homme ordinaire dont Dieu s'est servi par la puissance de son esprit. On voit ici des hommes que Dieu a équipés de son esprit pour conduire son peuple et le délivrer de ses ennemis. Des hommes ordinaires, sans compétences particulières, mais des hommes, j'ai quand même remarqué que c'est des hommes quand même qui sont disponibles et des hommes qui craignent les dieux. Hein, il nous est dit, par exemple, on retrouve Gédéon, Jephté et Samson dans Hébreux 11, par exemple, quand il est parlé des héros de la foi. On va le lire ensemble. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore ? dit l'auteur aux Hébreux. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit que les critères de choix de Dieu n'ont rien à voir avec les nôtres. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vides du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Dieu ne cherche pas des personnes compétentes, mais des hommes et des femmes de foi, disponibles, disposés à le servir. Et c'est lui, c'est l'Éternel en fait qui va les qualifier. Gédéon se sentait complètement illégitime, il se sentait incapable, mais Dieu a vu sa foi, il a vu son cœur disposé, et il a fait de lui un vaillant héros, ce que la parole nous dit, par la puissance de son esprit, et pour sa gloire à lui. Voilà ce que nous dit aussi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.
Amen.
Alors nous aussi, soyons de ces femmes, je commence par moi, par femme, soyons de ces femmes et de ces hommes qui seront disponibles pour servir Dieu.
Amen.
Alors quand j'ai dit que je commençais par moi, ce n'était pas forcément par moi, mais je commençais par les femmes parce que j'étais une femme. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains. Voilà. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors nous ne serons pas tous des architectes, ni même des juges, et encore moins des rois, comme on va le voir ensemble. Maintenant, nous sommes tous appelés à servir Dieu pour la gloire de son nom. Alors là, j'avais fait une petite parenthèse, j'avais envie un petit peu, enfin j'avais envie en tous les cas, j'avais à cœur de partager ça, mais je vais revenir à l'Ancien Testament, hein, où Dieu va choisir maintenant, va choisir d'équiper des hommes pour qu'ils règnent avec sagesse sur son peuple. Voilà ce qui nous est dit à propos de Saül, hein, qui fut le premier roi d'Israël, et également à propos de David. 1 Samuel 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Dans 1 Samuel 16, là il s'agit de David, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. L'huile dans la Bible est le symbole du Saint-Esprit. Certains rois, comme David et Saül, étaient oints d'huile pour indiquer qu'ils avaient été choisis par Dieu, qu'ils avaient été mis à part pour le servir et qu'ils étaient revêtus de la puissance de son Esprit pour accomplir leur mission. Les Écritures nous disent aussi que les sacrificateurs et les prophètes aussi recevaient également l'onction. Je vais m'arrêter sur les prophètes. Le prophète est celui qui transmet le message de Dieu à son peuple sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, 95 fois, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, j'espère que vous allez comprendre, 95 fois j'ai lu cette expression « La parole de l'Éternel me fut adressée en Saint-Esprit ». 95 fois. Et donc employé par Ézéchiel, par Jérémie, par Zacharie, par Élie, par Isaïe, par Jonas, par Agée. En fait, ce qui veut dire que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire que Dieu leur parle directement et qu'ils retransmettent mot pour mot le message qui leur a, été délivré pour le peuple. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Que toute parole qui est prononcée au nom de Dieu soit inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment, c'est très important. Dorian nous a parlé du prophète Ézéchiel jeudi dernier. Et c'est vrai que la vie et le message de cet homme étaient vraiment contrôlés par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'il exprime, on va voir ensemble. Voilà ce qu'il dit. Il me dit, il s'agit d'un fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parle. Plus loin, toujours Ézéchiel, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Plus loin, il est dit, l'Esprit m'enleva et m'emporta. Le prophète Ézéchiel a vécu des expériences extraordinaires avec l'Esprit de Dieu. Et il a été un instrument puissant entre ses mains pour son peuple qui avait été déporté avec lui à Babylone. Dieu s'est servi vraiment puissamment de cet homme. Alors, si certaines personnes étaient équipées d'Esprit de Dieu en vue d'un service précis, on remarque que dans l'Ancienne Alliance, elles étaient quand même peu nombreuses et qu'elles étaient d'une manière temporaire. Pour reprendre par exemple l'exemple de Samson, on voit l'Esprit de Dieu se poser sur lui à plusieurs reprises, ce qui veut dire qu'il n'était pas toujours sur lui. Et il finira même par se retirer complètement de lui quand il va persister dans son péché. Il en est de même pour Saül. quand lui aussi a persisté dans sa désobéissance à Dieu. Voilà ce qu'il nous est dit. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je pense aussi à ces paroles de David suite à son adultère avec Bathsheba. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, il y avait quand même cette crainte-là. Et en fait, on se rend compte que le problème de fond, en fait, c'est la présence du péché dans le cœur de l'homme. C'est lui qui sépare l'homme de Dieu. Voilà ce que nous dit le prophète Ésaïe. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grâce, il n'en reste pas là. Par la bouche de ses prophètes, eh bien, il va annoncer une heure à venir qu'il va accomplir lui-même par son esprit dans le cœur des hommes. On va lire ensemble dans Ézéchiel, chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel évoque ici l'expérience de la nouvelle naissance qui sera donnée à toute personne qui mettra sa foi en Jésus-Christ et le recevra comme son sauveur. C'est ce que nous-mêmes, qui avons confié notre vie au Seigneur, c'est ce que nous avons aussi vécu, cette nouvelle naissance. Voilà une autre promesse de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, ce jour-là, je répandrai mon esprit. Donc là, on voit que le prophète évoque l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit que les disciples de Jésus vont vivre au jour de la Pentecôte. D'ailleurs, ce même jour, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'apôtre Pierre reprend la prophétie de Joël pour expliquer ce qui est en train de se passer parce que les gens qui sont autour ne comprennent pas ce qui se passe. Cette grâce est offerte encore aujourd'hui. Elle est offerte à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Chaque croyant est appelé à faire cette expérience d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Pour conclure, je dirais que, encore une fois, à travers de cette étude pour moi, à travers de ce message, nous pouvons voir toute la valeur, toute la grandeur, toute la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a rappelé que c'est par son Esprit qu'il crée la vie, que c'est par la puissance de son Esprit qu'il nous rend capables d'accomplir ce à quoi il nous a appelés, que c'est également lui qui nous donne la sagesse, l'intelligence et tous les moyens dont nous avons besoin, non par nos propres forces, mais par la puissance de son Esprit. Une sœur nous a rappelé dimanche que l'Ancien Testament a été l'ombre des choses à venir. La parole de Dieu nous dit qu'elle est l'ombre des biens à venir dans l'Épître aux Hébreux. Et effectivement, si sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu était donné à certaines personnes en vue d'un service particulier, précis, sous la Nouvelle Alliance, il sera répandu sur toute chair et habitera dans le cœur de toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ pour son salut. Alors j'aimerais terminer par cette promesse que Jésus a faite à ses disciples juste avant sa crucifixion. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Amen.
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, Vous le connaissez car il demeure avec vous. Et là, il sera en vous. Gloire à Dieu. Je prie. Père éternel, Dieu tout-puissant, combien nous te sommes reconnaissants. Combien je te suis reconnaissant vraiment pour ta patience, vraiment. Mais quelle patience tu as eue avec ton peuple. Quelle patience encore tu as avec nous, encore, peuple du 21e siècle. Mais vraiment, mais quelle patience. Quel amour, quelle grâce. Vraiment, combien nous voulons te remercier, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Tu nous as envoyé un autre consolateur. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et cet esprit n'est pas à côté de nous, mais il est en nous. Mais quelle grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons tellement être dignes de toi, Seigneur. Mais purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Vraiment, que nous puissions être des vases d'honneur, Seigneur. Des vases d'honneur à ton service, Seigneur. Pour être des instruments utiles entre tes mains, Père éternel. Vraiment, merci, merci pour tant de confiance aussi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne fais exception de personne. Tu veux utiliser chacun d'entre nous, Seigneur, compétent ou non, Seigneur, parce que c'est toi qui équipes ton peuple, Seigneur Jésus, par ton esprit, Seigneur Jésus. Alors nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous présenter à toi tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Authentique. Voilà, que nous puissions être authentiques, vrais, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus, parce que c'est ce que tu attends, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour toutes ces modèles, Seigneur, que nous avons dans ta parole, Seigneur Jésus. Ceux qui sont à passer avant nous, Seigneur Jésus, et qui nous enseignent tellement de choses, Seigneur Jésus. Vraiment, merci, vraiment, et je demande vraiment d'agir au milieu de ton peuple. Tu vois la soif dans les cœurs, Seigneur. La soif, Seigneur, de vivre vraiment l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et viens agir au milieu de ton peuple. Souffle, Seigneur Jésus. Souffle, Seigneur. Vraiment que tu aies cette liberté, Seigneur Jésus. Et vraiment que nous puissions accomplir, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Bénis ton Église, Seigneur. Visite-nous par ton Esprit, Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et vraiment que toute la gloire te revienne, Père éternel. Amen.
Amen. Amen. Amen.